Normalement, ce n'était pas moi qui devais présider ce matin. Donc voilà, je vais faire un peu tout l'ensemble de culte. Est-ce que vous vous souvenez la prédication de Jean-Pierre de la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents? Oui, c'était dans Luc. Hein, à partir de verset, je dirais pas forcément à partir de verset 1, mais plutôt verset 5, où il a beaucoup parlé, verset 6 aussi, où il a beaucoup parlé de Zacharie, d'Élisabeth, de Marie, et puis d'autres événements, où il a fait intervenir pour dire que Dieu fait irruption dans notre vie pour nous transformer. Dieu fait irruption. Et qu'est-ce que nous faisons devant cette irruption? Comment nous réagissons? Et il nous a en tout cas invités à réviser nos comportements, à progresser, comme ces gens-là, Zacharie ou Élisabeth ou Marie, qui ont pu justement accepter, obéir, pour prendre le chemin que le Seigneur leur a tracé. Ce matin, j'aimerais revenir un petit peu avant, c'est-à-dire les quatre premiers versets de Luc, chapitre 1, que j'aimerais vous lire. Ah oui, j'ai oublié d'afficher. J'aimerais quand même vous lire les quatre premiers versets. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, c'est un peu compliqué déjà, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Pardon, j'ai bien enlevé ce masque. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà donc l'évangile de Luc qui commence par se présenter lui, et puis pourquoi il présente, pourquoi il écrit cet évangile de Luc. Vous savez que dans le Nouveau Testament, enfin plutôt le Nouveau Testament débute par les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces quatre évangiles sont la première et principale source d'information pour connaître sur la vie de Jésus, sur le ministère de Jésus. Alors, on peut se demander pourquoi les quatre évangiles? Pourquoi n'avons-nous pas juste un seul livre pour connaître, qui raconterait sur la vie de Jésus? Alors, je pense qu'avec les quatre auteurs différents, avec leur propre expérience spirituelle différente, sous l'inspiration, bien sûr, de Saint-Esprit, Dieu leur a permis de rapporter avec... vous savez, parce que lorsqu'on regarde un événement selon les différentes personnes, on peut apercevoir de différentes facettes. Et c'est ce que le Seigneur a voulu, a permis en tout cas d'avoir quatre visions différentes sur la même histoire. Alors, pour avoir une meilleure perspective du ministère de Jésus, en tout cas, Dieu nous a laissé les quatre évangiles dans toutes les facettes sur le ministère de Jésus. Alors, vous savez comment ça commence, les autres évangiles? Tout d'abord, dans Matthieu, chapitre 1, verset 1, ça commence comme ça. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Matthieu commence par la présentation de la généalogie de Jésus-Christ, tout simplement parce qu'il veut présenter aux Juifs qui connaissent l'histoire du passé. Parce que les Juifs attendaient le Messie et la généalogie, la présentation de la généalogie était très importante pour les Juifs. Ils savaient très bien que le Messie allait arriver par la descendance de David. C'est pour ça que Matthieu présente comme ça. Dans Marc, commence par commencement de l'évangile, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Là, carrément, il va très fort. Jésus-Christ, ce n'est pas juste un homme, mais un fils de Dieu. Il est Dieu, Marc. Par contre, Marc, il ne prend pas trop de temps pour expliquer la naissance de Jésus. Il est assez pressé pour présenter dès le début le ministère de Jésus. Comment ça se passe pour Jean, l'évangile de Jean? C'est aussi assez profond. Au commencement, là on ne parle même pas de la naissance de Jésus. On va encore plus loin, en arrière, il dit au commencement, c'est-à-dire au commencement de toutes choses, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Jésus, l'homme, pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Comment Dieu a pu lui révéler cette vérité incroyable? Je pense que l'apôtre Jean était profondément inspiré par l'Esprit de Dieu. Dieu lui a révélé cette vérité et c'est comme ça qu'il a pu écrire Jean. En tout cas, que ce soit Matthieu, Marc, Jean, les premiers versets, le point commun, c'est qu'ils parlent tous de Jésus-Christ, le Sauveur. Mais ce qui est marrant, dans le texte d'aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus. Enfin, si, on parle indirectement. On parle surtout de Luc, pourquoi il écrit ce livre. Luc est différent. Je vous relis le premier verset. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, là ils remarquent qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le ministère de Jésus. Là, les deux livres qui nous ont restés, c'est l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu. Avant que Luc écrit, il y avait déjà Marc et Matthieu qui ont été rédigés par Marc, Jean-Marc et Matthieu, le PhD. Et puis, il n'y avait pas que ces livres-là. Il y avait encore d'autres personnes qui avaient écrit plein d'autres récits sur le ministère de Jésus. Donc, on appelle en fait source primaire, document originel, par exemple Matthieu et Marc, mais il y a aussi une autre source secondaire. On dit souvent que sa source qui fait appel à pas mal de théologie, mais qui parle aussi beaucoup sur l'histoire de Jésus. Et on estime vraiment que Marc, l'évangile de Marc, a été aussi écrit à partir de ce source Q, mais bien sûr à partir de son expérience et avec les différentes recherches qu'ils ont pu obtenir. Alors, tous ces écrits, pourquoi il a écrit au verset 4, Luc dit le but de cette écriture. Il dit « afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus ». Le but de cette rédaction de Luc, c'est qu'il veut que un certain Théophile connaisse mieux Dieu. Donc, on apprend donc au verset 3 et verset 4 que le destinataire s'appelait Théophile, c'est-à-dire ami de Dieu. Et puis, on sait très bien aussi que ce Luc a écrit non seulement l'évangile de Luc, mais aussi les actes des apôtres. C'est où nous voyons l'histoire de l'Église primitive. Enfin, qui était ce Théophile? On ne sait pas. Pas trop, en tout cas. Il était peut-être quelqu'un qui a reçu ou qui a entendu l'Évangile, mais qui avait besoin de grandir. Est-ce que ce quelqu'un était aussi peut-être qui a financé le travail de Luc? On ne sait pas. En tout cas, que ce soit dans les actes, que ce soit dans l'évangile de Luc, le destinataire était Théophile. Bien sûr, ce n'est pas seulement Théophile. Après, ce livre a été aussi écrit pour que ce soit une lettre circulaire, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse lire et être édifié par cela. Et le but de cette écriture, c'est que, je relis encore, pour que Théophile ait la conviction, la certitude de la foi. En fait, déjà, vous savez, avant de transmettre cette certitude, il faut que soi-même ait la certitude. Lui, il avait cette certitude. J'ai l'impression, en lisant ce livre, que le feu brûlait dans son cœur et il ne pouvait pas ne pas annoncer cette certitude aux autres. Et vous, est-ce que vous avez cette certitude dans votre cœur? tellement que ça brûle. Est-ce que vous avez, enfin, votre envie, enfin, comment je pourrais dire ça encore, vous ne pouvez pas vraiment, non, les mots me manquent. En tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Est-ce que vous avez vraiment envie de transmettre cela aux autres? Cependant, dans cette écriture, dans cette introduction, Luc a une faiblesse. C'était quoi sa faiblesse? C'est que Luc n'avait jamais rencontré Jésus. Ah. Souvent, les gens croient que Luc a écrit l'évangile de Luc, donc il devait être un des disciples qui avait suivi Jésus pendant son ministère, pendant 3 ans et demi. Ah ben non, non, Luc n'avait jamais rencontré. D'ailleurs, on connaît très peu de lui. Et ce qu'on peut savoir, c'est qu'il n'était pas aussi connu comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Pourtant, son apport est considérable dans le récit de l'histoire de Jésus-Christ, sur l'histoire de la naissance de Jésus, sur l'histoire de la naissance de l'Église primitive. Si on regarde un petit peu la quantité qu'il a écrit, ça représente un quart du Nouveau Testament. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On a toujours l'impression que c'est Paul qui a écrit le plus, mais vous vous rendez compte, Luc aussi a écrit énormément. C'est un quart du Nouveau Testament, ça représente quand même pas mal. Alors qu'il n'a jamais rencontré Jésus, en tout cas pas physiquement. Il n'a jamais été le disciple. Luc était un médecin à l'époque. Nous avons ce matin, il y a plein de médecins. On a au moins 4, plus 5 maintenant. Il était médecin, mais il était aussi un remarquable historien. Et malgré sa faiblesse, c'est-à-dire il n'avait jamais rencontré Jésus, malgré sa faiblesse, Dieu lui a fait grâce. Bien sûr, il a rencontré personnellement par l'Écriture, une rencontre avec le Seigneur, pas forcément physiquement, mais spirituellement. Et le Seigneur a fait des merveilles. Est-ce que vous avez aussi des faiblesses dans votre vie? Sûrement, peut-être vous avez des faiblesses de péché. Vous pouvez vous dire peut-être que moi je ne suis pas aussi intelligent, ou peut-être que je suis trop introverti pour parler de Dieu aux autres. Je ne suis pas très relationnel. Souvent ma fille me dit tout souvent ça, je ne suis pas très relationnel. Alors je lui dis toujours, je ne suis pas non plus très relationnel, tel père, telle fille. Hein. Mais je lui dis toujours, mais j'ai changé. L'homme peut changer, l'homme peut être transformé. Malgré les faiblesses que nous avons, si nous avons la certitude à l'intérieur de notre cœur, si le feu brûle dans notre cœur, on ne peut ne pas annoncer l'Évangile. Alors, Luc explique comment il a pu obtenir cette certitude. Au verset 2, « Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. » Il a rencontré beaucoup de témoins oculaires, ceux qui ont rencontré véritablement Jésus. Et il a entendu leurs témoignages. Il les a suivis. Il a même fait un travail de vérification auprès des autres. C'est pour ça que dans Luc, on voit tellement de détails sur l'histoire de Jésus. Sûrement, il a dû rencontrer Marie pour lui demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou encore, il a dû rencontrer les bergers qui ont reçu, par exemple, dans le chapitre 2, on voit les bergers qui étaient dans les champs de Bethléem, et puis un ange apparaît et leur transmet une bonne nouvelle en disant que le Messie est né. Et cette naissance sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, annonce l'ange. Il dit encore, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le Christ que les Juifs attendaient depuis tant d'années. Et puis, les bergers ont vu une myriade, une multitude de l'armée céleste qui rejoignait cet ange, qui louait le Seigneur, qui louait la naissance de ce Messie. Au verset 15, chapitre 2, verset 15, il est écrit « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem ». Ils étaient dans les champs de Bethléem et là, ils vont à Bethléem même et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Donc, ils se sont déplacés pour voir, pour confirmer, pour certifier cette parole de l'ange. Et puis, ils ont rencontré le Messie. Après l'avoir vu, au verset 17, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. C'est formidable. Marie, qui avait déjà entendu par l'ange ce qui allait se passer, voilà, maintenant, elle apprend par des inconnus, que ce soit les rois mages, mais aussi les bergers qui viennent. Lui dit, cet enfant, c'est le Messie. Nous avons vu nous avons expérimenté telle chose avec l'ange du Seigneur, avec une armée céleste. Et Marie devait être vraiment, voilà, super contente, heureuse de savoir que ce qu'elle avait vu n'est pas une hallucination, mais une vérité. Ça a été confirmé par d'autres personnes qui ont reçu aussi des songes. Plutôt, pas seulement une vision, mais une expérience réelle. Dieu a choisi ses bergers pour transmettre la bonne nouvelle. Voilà. Et quand ils ont transmis cette expérience, ils avaient vraiment la certitude de ce qu'ils ont vécu. Est-ce que vous, vraiment, quand vous avez la certitude, le message que vous transmettez a plus de poids, plus de force? La première fois que j'ai prêché dans ma vie, c'était à l'école théologique. Quand j'ai fait mes études de théologie, voilà, on avait chaque semaine deux cultes dans la semaine, un mardi et puis un jeudi. Et à chaque fois, un étudiant de l'école devait prêcher. Ce jour-là, c'était moi. Pour la première fois de ma vie, je devais prêcher devant les théologiens, les profs, et aussi les futurs théologiens. Donc, je tremblais comme ça. Ah, comment je vais prêcher? Et le temps était interminable. J'ai dû vraiment galérer un peu dans la sueur, transpiration et tout. Et puis, c'était vraiment long. Puis quand j'ai vu, quand c'est terminé, 15 minutes. C'était assez court quand même. Mais pour moi, c'était un temps interminable. Donc, c'était un peu une prédication un peu ratée. On peut dire comme ça. Ma première fois. Je n'oublierai jamais la honte que j'ai eue. Et quelqu'un est venu me voir, me dit, écoute, Jean-Haut, c'était bien la lecture de la parole de Dieu. Mais quand tu as transmis le message, il n'y avait pas la certitude. Tu n'y croyais pas vraiment. Il fallait vraiment que tu ressentes ça, c'est vrai. Et il me manquait cela. Je n'y croyais pas forcément. Et pour moi, mon obsession, c'était comment bien prêcher devant tous ces théologiens, les profs. J'ai préparé une prédication super théologique pour épater les profs. Eh ben non, j'avais tout raté. Non, c'était pas le but, c'était l'édification de l'assemblée et moi j'avais complètement raté cela. J'étais pas du tout certain de ce que je prêchais en fait. Ici, Luc avait reçu une expérience particulière sûrement avec le Seigneur, mais aussi à travers les témoignages des autres, il a été enrichi, édifié. Je continue la lecture au verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Ça veut dire qu'il a fait des recherches comme un vrai historien. Ce n'est pas juste j'ai lu Marc, Matthieu, donc j'écris Luc. Non, il a fait plein de recherches. Il a rencontré plein de témoins oculaires. Il a fait au point qu'on voit plein de détails qu'on ne trouve pas dans d'autres évangiles. Et puis, sûrement, lorsqu'il a entendu ou lu l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc, il n'a pas juste entendu cet évangile, cette parole de Dieu. Il a voulu vivre cela. Il a voulu vivre. Vous savez, quelqu'un qui entend la prédication en disant, voilà, si je vous dis, voilà, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi la gauche. Vous pouvez vous dire en entendant cette parole, oh oui, c'est pas mal, c'est correct, c'est dans la foi chrétienne, et voilà, ça montre un peu l'amour du prochain. Il y a ce genre de personnes. D'autres, après avoir entendu cela, il va se dire, ah ben moi je vais expérimenter. Pas mettre tendre la joue exprès la joue droite, mais si jamais il expérimente ce genre de situation, il va tendre l'autre joue. Après, il va dire, oui, moi j'ai vécu ça, et finalement, je l'ai fait, et c'est bien, et c'est juste. Et ça a transformé certaines situations. Je pense sûrement qu'il a aussi mis en pratique tous ces enseignements du Seigneur. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Il a aussi dû faire cela. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique et laisse-lui encore ton manteau. Est-ce que nous avons cette générosité ou encore cette empathie envers l'autre? En tout cas, je reviens sur cette recherche qu'il avait faite. Luc a fait plein de recherches. Recherche avancée, comme un vrai historien. Et c'est pour ça qu'il décrit aussi des histoires comme Siméon. Siméon qui a rencontré Jésus. Un jour, le Seigneur révèle à Siméon, avant que tu meures, tu vas rencontrer le Messie. Et le jour où, le 8e jour, Jésus devait être circoncis. Il devait être présenté dans le temple. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur dit à Siméon, voilà le Messie. Voilà celui, l'enfant que tu attendais. Il est né devant toi. Et c'est comme ça que là, il dit, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Luc a dû entendre cette histoire, pas forcément par Siméon, mais en tout cas par ses proches. Et aussi, il décrit encore une autre histoire, c'est la prophétesse Anne. Et là, quand on voit un peu les détails qu'il a écrits, c'est vraiment, il a dû faire une grande recherche. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, donc lorsqu'il y avait Siméon, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle confirme que cet enfant est le Messie. On voit par les détails combien Luc a dû travailler pour avoir des renseignements. Et c'est comme ça qu'il a pu obtenir cette certitude dans son cœur. Je vais conclure. Vous savez que l'évangile de Luc est composé de 24 chapitres. Son but était de proposer un récit exact de la vie de Jésus et présenter Christ comme l'homme parfait et le sauveur de tous les hommes. Si on résume tout le livre de Luc, on peut prendre chapitre 19, verset 10, où il est dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Je relis « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, comme vous et moi. Nous vous, comme vous et moi qui sommes des pauvres, des rejetés, des dépendants, des pécheurs. Et Jésus est venu pour les sauver. Il est venu même, pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes et pour les enfants, parce qu'à l'époque, vous savez, les femmes et les enfants n'étaient pas du tout considérés. Ils étaient presque rien du tout. Et là, Jésus renverse tout. Il les accueille. Il les considère comme des gens importants. Pas seulement les hommes, mais aussi les femmes et les enfants. À l'époque, l'Église était en train de naître. Et l'Église était en train de se séparer du judaïsme. Et à travers son livre, Luc veut nous rassurer que ses écrits sont vrais et réalité stricte. Et donc, le salut, l'histoire du salut de tout homme à travers son sacrifice est vraie. C'est une vérité absolue. Il veut qu'on vive le salut de Dieu, non seulement dans le futur, mais aussi dès à présent, dès aujourd'hui, par la transformation de la grâce de Dieu. Et je dirais même, tout cela commence par la prière, par la communion avec le Seigneur. Luc, il a été inspiré. Pour être inspiré, il était toujours en communion avec le Seigneur. Est-ce que vraiment nous sommes en communion avec le Seigneur? C'est une question qu'on peut se poser ce matin. Vous savez, même Jésus, le Fils de Dieu, priait. À chaque fois dans le livre de Luc, on voit toujours Jésus pria. Jésus pria. Jésus pria. Avant le baptême, Jésus, à son baptême, Jésus pria. Avant de choisir ses apôtres, avant de commencer son ministère, Jésus pria. Après avoir accompli des miracles, Jésus pria. Il se mit à l'écart. Avant la croix, Jésus pria. Pour lui, il a montré l'exemple à nous tous pour dire que la communion avec le Seigneur est vraiment très importante. Et ce matin encore, réfléchissons à cette idée. Oui. Ayons vraiment une communion sincère avec le Seigneur. Et peut-être, tout commence, c'est vrai, tout commence par la repentance. Une fois que nous avons expérimenté cette repentance, cette grâce infinie, obtenue, une fois que nous avons obtenu la certitude, on peut assumer le rôle de sel et de lumière dans le monde. Dans le monde. Nous avons vu, que ce soit le berger, que ce soit Anne ou Siméon, ou encore d'autres personnes qui ont découvert cette certitude du salut par Jésus, ils ont transmis. Que nous puissions vraiment transmettre aussi cette joie, cette grâce que nous avons reçue à ceux qui sont proches de nous. Je vais inviter à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour Luc. C'est vrai qu'il ne t'avait jamais rencontré de son vivant, mais d'ailleurs comme nous tous, mais tu as permis qu'il ait une expérience spirituelle pour qu'il t'accepte, toi, comme sauveur et Seigneur. Et un jour, dans notre vie, toi aussi, tu t'es révélé en nous, nous t'avons accepté. Ou peut-être certains d'entre nous n'ont pas encore accepté. Que tu puisses aussi cheminer avec eux pour qu'un jour, qu'ils aient cette certitude. Je suis sûr aussi que ce Théophile, après cette rédaction de l'Évangile et des Actes, il a dû sûrement aussi t'accepter comme toi, Sauveur et Seigneur. Seigneur, cette certitude dans le cœur nous permet de bouger, d'ouvrir notre bouche, d'aller vers les autres et réaliser des miracles, réaliser des choses grandioses. Parce que tu nous accompagnes, parce que tu nous permets de réaliser tout cela. Que tu nous accompagnes aussi dans ces temps de l'Avent, peut-être pour parler ou pour être c'est les lumières dans le monde, parfois par notre comportement, par notre agissement, par notre parole, par notre témoignage. Seigneur, oui, c'est une période propice pour parler de toi. C'est vrai, le monde parle cette fête de Noël comme... Voilà, pour le profit de leur commerce, mais nous voulons justement parler pourquoi nous fêtons Noël. Nous voulons fêter Noël parce que tu as abandonné ton trône céleste pour pour venir jusqu'ici-bas. Et tu as, oui, tu t'es humilié pour venir jusqu'à nous et porter la croix pour le salut de l'humanité. Et nous voulons encore te remercier pour cela. Et cette vérité, nous voulons aussi transmettre, que tu nous aides en tout cas dans cette étape. En tout cas, Seigneur, aide-nous vraiment à avoir cette vie de communion avec toi pour vivre tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen.